Aujourd'hui, nous recevons donc Hubert Curien, qui est professeur à la faculté des sciences de Paris, qui est directeur général du CNRS, président du CNES, le Centre national d'études spatiales, qui est président du conseil de l'agence spatiale, qui est président de l'Académie nationale de l'air et de l'espace, qui a été de 84 à 86 et de 88 à 93 ministre de la recherche et de la technologie, et qui est depuis 98 président de la Fondation de France. J'ajoute que Hubert Curien est membre de l'Institut, vice-président de l'Académie des sciences, vice-président de l'Académie internationale d'astronautique. Hubert Curien, nous vous écoutons.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour cet accueil chaleureux. Je vous présente donc la première des trois conférences qui sont prévues sur l'espace. Je vais vous parler aujourd'hui du transport, puis Madame Amar vous parlera de la vie dans l'espace, et enfin, pour l'espace, Monsieur Jacques Blamont parlera des applications en général et, je pense aussi, de la recherche scientifique organisée autour des moyens spatiaux. Il est fort agréable de parler de la conquête de l'espace par l'homme parce que c'est vraiment un grand événement. C'est, à mon avis, l'un des tout premiers événements du siècle que nous venons de vivre, et je le décrit volontiers, je pense que vous en êtes d'accord, comme la conquête de la troisième dimension. Il y a 500 ans, Christophe Colomb avait conquis l'ensemble des deux dimensions, la surface de la Terre. On n'en connaissait qu'un petit bout, et puis de hardis navigateurs nous ont permis de connaître pratiquement toute la surface dès l'époque du 15e siècle. Et puis, là, nous sommes arrivés à la conquête de la troisième dimension, et le bip-bip du Spoutnik, c'est à mon avis aussi historique que l'accostage de Christophe Colomb sur une île qu'il croyait être les Indes. Maintenant, on doit s'interroger sur, puisqu'on peut y aller dans l'espace, sur ce qu'on y fait, comment on y va et pourquoi on y va. Avant d'aller un peu plus dans le détail, je voudrais vous rappeler les quelques jours de gloire de la conquête spatiale. J'ai rappelé naturellement l'événement clé initial, le lancement de Sputnik 1 en 1957. Tous ceux qui étaient déjà nés à cette époque ne peuvent pas l'avoir oublié. Et dans cette atmosphère de guerre froide que nous vivions à cette époque-là, c'était un événement qui a été ressenti comme une gifle par les Américains, et ils avaient raison de le ressentir comme ça, parce que il s'agissait de prestige, et la première marque a été au profit de l'URSS. Bien sûr, les Américains n'étaient pas loin du but non plus, et dès le 31 janvier 1958, ils ont lancé un premier satellite américain qui s'est appelé Explorer. Alors, ça, c'était qui lancera le premier satellite. Ensuite, c'est devenu qui lancera le premier homme dans l'espace. Alors là aussi, l'atout maître, ça a été l'atout soviétique et pas l'atout américain, puisque c'est Gagarine qui, le premier, a fait un petit tour autour de la Terre, en 1961, suivi une petite année plus tard par le premier vol orbital américain avec John Glenn. Et Voilà donc une situation qui tendrait à faire croire, si on n'approfondissait pas, que les Soviétiques avaient une avance considérable sur les Américains. Non, elle n'était pas considérable, ils avaient une avance parce qu'ils avaient fait un effort formidable et ils voulaient démontrer que non seulement ils étaient aussi bons que les autres, mais que lorsqu'il s'agissait de faire des choses très difficiles, ils pouvaient être les meilleurs. Alors, il fallait que le sentiment national américain trouve une certaine compensation. Aussi a-t-on dégagé l'argent nécessaire. Et c'est un Américain qui, le premier, a marché sur la Lune. Comme je le rappelle ici, débarquement sur la Lune le 21 juillet 1969. C'était pas gratuit. Les Américains ont depuis inventé une nouvelle unité, une unité qui n'est pas nouvelle en soi parce qu'elle est déjà utilisée, mais pour toute autre chose, c'est l'unité astronomique. L'unité astronomique, que vous savez, c'est la distance de la Terre au Soleil. Mais en termes de dollars, l'unité astronomique, c'est le coût de la marche sur la Lune. Alors, combien vaut une unité astronomique, à votre avis ? Quelqu'un a répondu 100 milliards de dollars, il a raison. Enfin, à peu près. Actualisé, vous l'avez vécu, actualisé en dollars d'aujourd'hui. Oui, bon, 100 milliards de dollars, mais c'était la Lune. Et il fallait y aller, et non seulement il fallait y aller, mais il fallait en revenir, ce qui n'était pas le plus simple. Et pourquoi est-ce que là, les Soviétiques ne sont pas arrivés avant les Américains ? C'était parce que les Soviétiques étaient sûrs de pouvoir y aller, il n'y avait pas de doute, ils savaient y aller, ils auraient su y aller, mais ils n'étaient pas absolument sûrs de revenir. Vous vous rendez compte de la catastrophe s'ils y étaient allés sans revenir. Et ils n'ont pas tenté cette manœuvre qui n'était pas sûre de réussir, ce sont donc les Américains qui l'ont tenté les premiers. Alors j'ai inséré sur cette projection, ça va, on la voit, oui, une date qui m'a paru importante, c'est... Le 25 novembre 1965, vous voyez, qui n'est pas tellement éloigné des premiers satellites lancés par l'URSS et par les USA, c'est le lancement du premier satellite français par une fusée Diamant à partir du site saharien d'Amaguir. Ce satellite était très modeste. Si vous me demandez à quoi il devait servir, eh bien, il devait servir simplement à être mis au bout de Diamant et de dire ce que faisait Diamant. Alors, bon, vous direz, alors quel intérêt ? Ben, l'intérêt, c'était de montrer que nous, Européens, on n'était pas tout à fait au même niveau d'avancement que les autres, mais que le décalage n'était pas considérable et que, en termes de puissance technique et donc économique, nous n'étions pas à considérer comme dans le peloton des médiocres et que, avec un effort supplémentaire, nous pouvions être dans le peloton des très bons. Je suis la liste que je vous ai proposée et là, j'ai mis encore un autre type d'événement, la mise en place de stations spatiales habitées avec Salyut pour les Soviétiques encore et la première station spatiale américaine avec le laboratoire Skylab. Vous voyez que là, ce sont des événements qui ne sont pas tout à fait contemporains mais qui se suivent d'assez près. Et puis, pour conclure cette grande compétition soviéto-américaine, je mentionne le 17 juillet 1975 la poignée de main symbolique dans l'espace, jonction dans l'espace d'un vaisseau Apollo de l'US, des États-Unis et d'un vaisseau Soyouz de l'URSS. Les deux superpuissances spatiales ont tenu à montrer qu'elles savaient aussi se tendre la main, au moins dans l'espace. Fin de cette liste de jours de gloire, je serais bien sottement immodeste si je ne plaçais pas la date du 24 décembre 1979, qui a été la date du premier lancement d'Ariane. Ça a été un très grand moment d'émotion pour tous ceux qui étaient engagés dans le programme. Et à partir de là, nous avons senti que nous étions vraiment dans la cour des grands, nous, Français, tirant avec nous, je ne dis pas traînant, mais tirant avec nous, entraînant avec nous, et je ne dis pas derrière nous, ce ne serait pas gentil, les autres Européens. Voilà donc quelques jours qui me paraissent, quelques événements qu'il me paraissait nécessaire de rappeler. Alors maintenant, je vais me permettre d'attirer votre attention sur ce que j'appelle la préhistoire des lancements spatiaux, la préhistoire de l'aventure de mise au point des fusées. Un peu plus haut, ça ira. Bien. Je cite d'abord Eno Pelterie, qui est un Français, dont vous voyez date de naissance et de décès. On ne le voit pas assez. Ça va comme ça? Ah ben voilà. Merci beaucoup de m'aider. Je vais montrer tout à l'heure. Alors, Eno Pelterie, sa gloire essentielle, la raison sans doute pour laquelle il a une jolie rue qui, vous voyez, est entre le ministère des Affaires étrangères et le terminal Air France, pas mal. Il a inventé le manche à balai, c'est le gros truc pour Eno Pelterie, il faut bien le dire, l'invention du manche à balai pour les avions. Et il a été surtout le promoteur de la propulsion par réaction. Et il a vraiment démontré, il a beaucoup publié là-dessus, la possibilité offerte par les fusées pour des missions interplanétaires. Et il insistait sur la possibilité de missions interplanétaires grâce aux fusées. Il avait fait quelques calculs qui lui avaient prouvé que cela était vraiment à la portée d'une technologie bien comprise. Je cite maintenant un autre pionnier qui est Robert Goddard, américain, qui lance, la première fusée à ergol liquide. C'est vraiment la première fusée à ergol liquide. Vous me direz, elle n'a pas eu un succès formidable puisqu'elle a atteint 12,50 m. Oui, bon, c'est vrai, hein, mais c'était la première. Et ensuite, il s'agissait de faire mieux, mais on avait déjà fait décoller un engin qui n'est pas allé bien loin. J'en suis bien d'accord. Et puis maintenant, je cite un Allemand. Les Allemands ont joué un rôle considérable dans le développement de la technologie des fusées. Il s'agit de Hermann Oberth, qui a publié, un peu avant la guerre, en 1929, un traité d'astronautique qui a été considéré vraiment comme l'une des étapes essentielles de l'étude des possibilités offertes dans ce domaine. Alors, Hermann Oberth a eu une belle carrière en Allemagne et il a, à la fin de sa carrière et de sa vie, il a rejoint les États-Unis et il est allé conseiller von Braun, qui lui avait rejoint les États-Unis tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. Je cite maintenant un Ukrainien, Korolev, qui a fabriqué la première fusée soviétique à propergol liquide, et c'est l'auteur de la fusée Zemyorka. C'est cette fusée qui lancera Sputnik en 1957. Et ma liste se termine avec le nom d'un technicien allemand, Werner von Braun. Je le cite parce qu'il a joué un rôle considérable dans la technologie des fusées, c'est vrai. Seulement, je le cite avec à la fois beaucoup de respect parce qu'on a donné son nom à un prix et ce prix m'a été attribué, donc je ne peux pas dire du mal de l'éponyme d'un prix que j'ai accepté. Il y aurait une certaine duplicité, mais je ne peux pas quand même, j'ai pas pu quand même m'empêcher de mettre sur mon papier qu'il a fait partir de Peenemünde plus de 4000 fusées qui n'allaient pas vraiment très haut dans l'espace, mais qui allaient vraiment au cœur de Londres. C'était pas bien. Non, c'était pas bien. Bien, c'était von Braun. Il aimait les fusées, mais il aimait les fusées. Mais il n'aimait que ça. Les Américains arrivent en 45 ou 44, fin 44, 45. Qu'est-ce qu'il aime, lui ? Hitler, il s'en fiche. Deutschland, über alles, certes, mais si c'est mieux aux États-Unis, allons aux États-Unis. Et on dit qu'il a été pris par les Américains. Bon, non, il est allé avec les Américains et il a eu grand plaisir à reprendre une carrière d'homme de fusée aux États-Unis avec un succès extraordinaire. Et alors, bon, ce n'est. L'histoire des technologies, de la science, l'histoire tout court, nous donne quelques exemples de personnages de ce type. Est-ce qu'on doit les traîner dans la boue en disant que ce sont des gens qui n'ont pas de conviction patriotique ? Non, il n'avait pas de conviction patriotique. Sa patrie, c'était les fusées. Et il a adoré cette patrie-là. On peut parler de cela longuement, mais ce n'est pas tout à fait le sujet de la conférence de ce soir. Ensuite, je voudrais vous parler de ce que nous faisions pendant ce temps-là, ce que nous avons fait en France et en Europe. Et j'ai intitulé cette projection « Le diamant français ». Les militaires français ont développé depuis longtemps des engins qui avaient des objectifs purement militaires et pas du tout des engins susceptibles de mettre en orbite des satellites. Et ces engins-là portaient le nom des pierres précieuses. Il y a eu Topaz, il y a eu etc. Et le dernier de ces engins a été, lui, conçu dans l'idée de mettre en orbite des satellites, et comme il finissait la série, on l'a appelé Diamant. Le Diamant français, premier lanceur de satellites développé en Europe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le 20 novembre 1965, il a lancé un satellite tout à fait expérimental, Astérix. Et on a utilisé Diamant pour placer en orbite une douzaine de satellites en 10 ans. Bon, c'était des petits satellites de l'ordre de 100 kg du Quintal, et on les plaçait sur des orbites relativement basses, à 500 km. Alors 500 km, c'est une orbite basse, parce que si vous prenez des orbites encore plus basses, il y a des résidus d'atmosphère, et puis ça frotte, et quand ça frotte, ça descend, ça frotte de plus en plus, et ça finit par brûler. Bien, donc, mais à 500 km, ça va encore pour un bon moment. Donc, avec Diamant, on a fait ça. On a fait ça et en même temps, on a mis au point le champ de tir de Kourou. Le champ de tir de Kourou, qui est un grand atout pour l'Europe. Pourquoi est-ce que le champ de tir de Kourou est particulièrement intéressant ? C'est parce qu'il est sur l'équateur. Et quand on est marchand de fusée, on aime bien avoir son magasin sur l'équateur. Pourquoi ? Parce qu'un bon nombre de satellites sont placés dans des orbites qui sont quasi-équatoriales. Donc vous êtes sur l'équateur, vous tirez à l'est, hein, les artilleurs savent ça, on tire toujours à l'est. Pourquoi est-ce qu'on tire toujours à l'est ? Eh bien parce qu'on profite de la rotation de la Terre qui vous donne une impulsion supplémentaire. Ce n'est pas négligeable. Donc, il n'y a pas de tournant à faire. Les tournants sont terriblement mangeurs d'énergie. Donc là, il n'y a pas de tournant à faire. C'est donc une très bonne base. Et puis, pour les orbites, je reviendrai tout à l'heure, qu'on veut mettre en orbite polaire, eh bien, si vous voulez mettre un satellite en orbite polaire, vous allez viser vers le nord. Alors l'avantage là, quel est-il ? C'est que si par malheur, mais ça n'existe plus, ou presque plus, la fusée tombe, eh bien, elle tombe dans l'océan, elle fait de mal à personne. Donc Kourou est à de très nombreux titres, géographiquement très bien placé, et on en a fait une très belle base. Donc, grâce à Diamant, nous nous plaçons dans la compétition spatiale. Mais Diamant était insuffisant, orbite basse, satellite de masse de l'ordre du Quintal, il fallait aller nettement plus loin dans les performances. Alors, la France et l'Europe, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Eh bien, elles se disent, la France dit à ses collègues européens, on va créer un organisme européen international pour développer les lanceurs. Ça a été ce qu'on a appelé ELDO, E pour Europe, L pour lanceur, D pour développement et O pour organisation. Voilà. Eh bien, l'Europe groupée dans ELDO n'a pas eu de succès. Elle n'a pas eu de succès parce que l'ELDO, comment est-ce que ça a été fait ? Eh bien, ça a été conçu à peu près comme l'avaient fait les architectes qui étaient chargés de la construction de la tour de Babel il y a un certain temps. Elle s'est effondrée, cette tour. Et les fusées Europa lancées par ELDO sont toutes retombées. Alors, pour la tour de Babel, il y a deux interprétations. Hein. C'est premièrement que le bon Dieu, voyant cette espèce de ridicule monter, se dit, ils vont me chatouiller sous les doigts de pied. Pff, pas de ça. La deuxième explication, c'est qu'il parlait toutes les langues et il n'avait pas d'interprète. C'est-à-dire qu'on a fait la fusée Europa avec l'organisation ELDO en faisant un premier étage britannique, un second étage français, un troisième étage allemand. En effet, quand les Français ont dit « il faut vraiment faire une belle fusée », les Britanniques ont dit « oh ben nous, en fusée, quand même, on sait ». Et les Allemands, avec un petit sourire, ont dit « nous aussi, on sait, vous vous souvenez ?» Oui, on se souvenait. Bon, donc, on fait la fusée Europa. On prépare un champ de tir en Australie, à Woomera. L'objectif était, en gros, de lancer une tonne à 500 km sur une orbite circulaire. Et puis ensuite, on a changé l'objectif. On a dit on sera moins gourmand en masse, on va descendre à 200 kg, mais on va en orbite géostationnaire, c'est-à-dire à 36 000 km. Donc, 10 essais de la fusée Europa, 10 échecs qui se terminent par une superbe explosion de la fusée quand on l'a tirée pour la première fois à Kourou en 1961. Pour la première fois à Kourou, hein, pas pour la première fois. Très bien. Donc, il fallait faire quelque chose. Alors, faire quelque chose, les Allemands qui étaient essentiellement dans cette affaire américanotrope et qui se disaient, de toute façon, si on a besoin de fusées, on les achète aux Américains, à quoi bon dépenser notre argent en faire ça, on va plutôt faire des satellites d'application, etc. Et les Français, bah, qui dépensent leur argent s'ils aiment les fusées. Voilà, c'était l'état d'esprit. Et les Britanniques encore plus loin. Et puis, alors, il y a eu un coup de tonnerre qu'il est intéressant de rappeler, ça a été le coup de symphonie. Le coup de symphonie, c'est l'affaire suivante. Les Allemands et les Français s'étaient entendus pour construire un superbe, superbe satellite de télécommunication appelé Symphony. Vous voyez, un très beau programme de technologie très avancée entre deux pays qui, 20 ans plus tôt, visaient plutôt avec des fusils. Donc, Symphony, on travaille ensemble, on fait quelque chose de très avancé ensemble. Et en principe, ce Symphony devait être lancé par la fusée Europa, pas de fusée Europa. Alors les Allemands disent, c'est tout simple, on vous l'a toujours dit, il n'y a qu'à aller voir les Américains, ils vont nous la lancer, ils vont nous les lancer, ces deux satellites. On va voir les Américains, mais bien sûr, messieurs, venez, voilà, le prix, un prix raisonnable, oui, prix raisonnable. Et les délais, mais quand vous voulez, messieurs, bon, très bien, on prend le stylo, on est prêt à signer, et puis un Américain qui avait un petit remords quand même, dit, il y a un truc que vous n'avez peut-être pas très bien lu là, c'est qu'on vous lance le satellite, mais vous n'aurez pas le droit de vous en servir. Alors attendez, ce n'était pas écrit exactement comme ça. C'était écrit qu'on n'avait pas la permission d'utiliser ce satellite pour des liaisons, c'est un satellite de télécom, pour des liaisons commerciales de télécommunications. Donc, il nous disait, vous jouerez tant que vous voudrez, mais vous n'en tirerez aucun profit. Mais ils avaient raison, ils avaient le monopole des lancements spatiaux, le monopole. Pourquoi est-ce qu'ils auraient cassé ce monopole? Simplement pour encaisser le prix de lancement. Perdre un monopole, c'est quelque chose qui valait plus que le prix de lancement. Donc, ils ont dit ça. Alors là, nos collègues d'Outre-Rhin ont commencé à dire « Ah, ben quand même, le raisonnement français de la nécessité d'avoir un lanceur européen, et voilà la démonstration que c'était un raisonnement correct. Nous allons nous ressaisir et voyons ce qu'on peut faire. » Alors, les Français repartent de l'avant et définissent un programme qui sera le programme Ariane. le programme Ariane, c'est donc quelque chose qui a été conçu dans les années... On a commencé très sérieusement dans les années 60, et puis, dans le début des années 70, disons. Alors, pourquoi Ariane? On me le demande quelquefois. Alors, il y a plusieurs interprétations. Celle que j'ai choisi de faire passer dans l'histoire, c'est, et tout le monde a l'air d'être d'accord, c'est que le ministre de l'époque, M. Charbonnel, était agrégé de lettres classiques. Et d'ailleurs, il a rendu à Ariane un service formidable parce qu'il y a cru, et c'est grâce à lui qu'on a eu la décision. Alors, agrégé de lettres classiques, il s'est dit, tiens, avec ça, on va renouer l'espace, et quand on renoue quelque chose, il faut une ficelle, et derrière la ficelle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Madame Ariane. Bon, donc, le fil d'Ariane, c'est pas le fil qui permet d'aller dans un labyrinthe, c'est le fil qui permet de faire un beau bouquet avec toutes les bonnes volontés européennes. C'est pas beau, ça? Merci. Très bien. Donc, nous voilà repartis avec Ariane et avec... Alors, on a dit, attention, Ariane, on ne va pas faire Babel comme avec Europa, on va avoir un système qui, techniquement et du point de vue de l'organisation, va marcher. Alors, voici quelques organisations françaises et européennes dans l'espace. ELDO, j'en ai parlé. Non, je vais vous parler de... Je vais reprendre cela. Voilà. Le CNES créé en 62, Centre national d'études spatiales. Et pour, avec cette nouvelle initiative de lanceurs, on s'est dit on va regrouper toutes les initiatives européennes possibles dans une seule et même agence qu'on a appelée l'Agence spatiale européenne, European Space Agency, qui a été mise en place véritablement en 1975-76. Les décisions politiques se font dans le conseil de cette agence. En ce qui concerne les lanceurs, l'agence sous-traite avec le CNES et le CNES organise avec un opérateur industriel, un maître d'œuvre industriel, la construction de la fusée. Donc vous voyez une véritable unité pour la construction d'un engin, certes complexe, il faut donc une bonne coordination, et c'est comme ça qu'on est reparti avec Ariane, et c'est comme ça qu'on a eu le succès que vous connaissez. Je voudrais aussi rappeler un petit épisode intéressant. En 1979, on lance Ariane, on est content, ça marche. Alors, on est content, ça marche, et tout le monde nous dit, ah ben maintenant que vous avez une belle fusée qui marche, il va falloir la vendre. Oui, très bien. On l'a fait pour ça aussi. Hein. Il faut des vendeurs. Ben oui, il faut des vendeurs, mais c'est un métier d'être vendeur. Et alors, il se trouve qu'à cette époque-là, j'étais président du Conseil de l'Agence spatiale européenne. Je dis, il faut créer quelque chose qui est la structure, une structure propre à aborder le marché et à organiser la fabrication et les ventes. Mais alors, je n'ai pas eu d'unanimité immédiate, et bien loin de là, parce qu'un bon nombre de délégations qui étaient formées de gens fort intelligents et fort honnêtes, mais plutôt genre administrateurs, ambassadeurs, directeurs de ministères, etc., se disaient, mais nous, vendre des fusées, mais on saurait tout aussi bien, l'Agence spatiale européenne. Alors j'ai eu un mal de chien de leur faire comprendre que le métier d'un directeur de ministère ou d'un ambassadeur, c'était pas un métier de marchand de fusées, et que si on voulait vendre des fusées, il fallait s'organiser en marchand de fusées. Alors, bon, on est arrivé à les convaincre. On a créé Ariane Espace, qui est donc l'entité qui a la responsabilité de gestion et de vente de la série des lanceurs Ariane. Ensuite, je voudrais maintenant vous dire quelques mots de la participation des différents pays à l'Agence spatiale européenne. C'est intéressant de voir quelle est la répartition. Alors, je vais essayer de dégager le total. Voilà, vous voyez que les programmes de l'Agence spatiale européenne sont de deux natures, ceux qu'on appelle obligatoires et ceux qu'on appelle facultatifs. Alors les programmes obligatoires, c'est par exemple les programmes scientifiques. Les programmes optionnels sont des programmes dans lesquels chacun peut mettre une part qui correspond à la force de son industrie et à ses soucis politiques. Alors vous voyez que la France prend pour les programmes obligatoires une part de 20%, ce qui correspond bien à son PNB dans l'ensemble des membres de l'Agence spatiale européenne, et que pour les programmes optionnels, la France est à 32% parce qu'elle est fortement majoritaire dans le programme de fabrication des lanceurs en particulier. Vous voyez par contre que le Royaume-Uni est à 12 à 13, ce qui correspond à son PIB pour les programmes obligatoires, mais qu'il n'est qu'à 6% pour les programmes optionnels parce qu'il ne participe pas au programme de lanceurs. Ils ont précisé qu'ils s'intéresseraient au programme de satellites, mais pas au programme de lanceurs. Quant à l'Allemagne, vous voyez qu'elle est à 25%. Qui correspond au PNB, et qu'elle est aussi à 25% pour les programmes optionnels. Ceci est un changement important dans l'attitude de l'Allemagne depuis une vingtaine d'années. Dans le Ariane primitif, l'Allemagne était nettement en dessous, et voyant que c'était un programme important, un programme phare pour l'Europe, elle a pris une part plus grande dans cette aventure vraiment tout à fait fascinante. Voilà. Alors, le total est peut-être d'un certain intérêt. Vous voyez que le total du budget de l'Agence spatiale européenne, c'est de l'ordre de 2,3 milliards d'euros. Je voudrais maintenant arriver... Ah oui, alors vous êtes peut-être intéressé, puisque je parle de milliards d'euros et de budget d'organisme, intéressé au budget français de l'espace, tout compris. Hein, le budget français du CNES, c'est de l'ordre de 13-14 milliards de francs. Hein. Sur lequel donc sont pris les différents types de programmes, aussi bien lanceurs que satellites, télécommunications, observations, etc. Alors maintenant, j'aimerais parler un tout petit peu de technique et voir avec vous, à propos des lanceurs, comment ça marche, à quoi ça sert. À quoi ça sert? Eh bien, un lanceur, ça doit avoir trois vertus, accomplir trois tâches. Vaincre le champ de gravité, c'est-à-dire arracher la fusée avec son satellite au bout au champ de gravité terrestre pour amener le satellite sur une orbite stable. Pour ce faire, l'affaire est compliquée du fait qu'il y a une atmosphère autour de la Terre, donc il faut traverser cette atmosphère. Et dans les premières couches, dans les couches les plus basses, cette atmosphère est dense. Alors vous voyez que traverser à grande vitesse une atmosphère dense, ça chauffe et ça crée un certain nombre de contraintes pour le lanceur. Et enfin, et ce n'est pas la moindre tâche, il faut donner à la charge utile, au satellite qu'on amène, une vitesse horizontale élevée. En effet, voici la Terre. On s'en éloigne, mais il faut ensuite que le satellite vienne tourner autour de la Terre. Donc il faut lui donner, vous voyez, une vitesse horizontale par rapport à la Terre, élevée pour que sa force centrifuge due à son mouvement sur l'orbite égale la force centripète qui est la force de gravité. Donc il faut ajuster la vitesse pour que ces deux forces soient égales et que le satellite soit en équilibre sur son orbite. Alors et ces vitesses-là, elles sont de quel ordre de grandeur? Elles sont d'un ordre de grandeur de quelques kilomètres par seconde, n'est-ce pas, typiquement. Alors si vous voulez comparer, quelle est la vitesse de la Lune, à votre avis, autour de la Terre? On sait. Oui, on sait, mais on n'ose pas dire, c'est de l'ordre du kilomètre par seconde. Donc, Bon, et la Lune, elle est quand même à 300 km, alors que nous, 300 000 km, alors que nous, nos bonnes orbites, elles sont 10 fois plus proches, 36 000 km. Alors, nos bonnes orbites, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que les orbites spécifiques qui sont généralement utilisées dans les applications les plus courantes ? Orbites spécifiques, les voilà. D'abord, l'orbite géostationnaire, l'orbite terrestre géostationnaire. Voilà, l'ambition est la suivante. Vous voulez faire, par exemple, des télécommunications. Alors, vous aimeriez bien avoir au-dessus de vous un satellite qui vous paraisse immobile. C'est sympathique parce que vous avez des antennes qui vont envoyer le signal vers une cible qui vous paraît fixe et cette cible qui vous paraît fixe vont renvoyer le signal vers un récepteur. Donc, essayons de mettre en orbite un satellite qui vous paraisse fixe et qui soit de préférence, pas trop éloigné de l'équateur. Bien, alors il faut chercher une orbite dont la période soit quoi ? Soit 24 heures, c'est-à-dire que voici la Terre qui tourne et le satellite tourne à la même vitesse angulaire, donc il vous paraît fixe. Donc, mettons nos satellites sur une telle orbite, dite géostationnaire, vous voyez pourquoi stationnaire, géo par rapport à la Terre, et il se trouve que cette orbite, elle est à une altitude par rapport à la Terre de 36 000 km. Si vous voulez la distance absolue jusqu'au centre de la Terre, vous ajoutez les 6 000 km qui constituent le rayon de la Terre. Donc, 36 000 km, c'est l'orbite géostationnaire, 42 000 si vous la rapportez au centre de la Terre. Et là, votre satellite, si vous l'avez mis à la bonne vitesse, eh bien, il parcourt une orbite circulaire de 24 heures. Et patate. Donc, pour les télécommunications, pour les observations météorologiques globales, par exemple, vous aimez bien aussi être au-dessus d'un panorama qui ne change pas, qui ne bouge pas par rapport à vous. Hein, vous regardez, alors vous me dites, attention, 6 000 km la Terre, bon, 36 000, je suis là. Qu'est-ce que je vais voir de la Terre ? Eh bien, je vais voir un tiers de la Terre, à peu près. Bon. Alors, si vous voulez voir toute la Terre, il vous en faut plusieurs. Bon, ben, qu'à cela ne tienne, si on sait 1m1, on saura bien 1m4 ou 5. Bien. Donc, orbite géostationnaire, et là, courroux superbe, puisque nous sommes sur l'équateur. Deuxième. Alors oui, vous pouvez dire, mais alors depuis qu'on a découvert cette orbite et qu'on y met des satellites, ça fait peut-être beaucoup de satellites, cette orbite. Eh oui, ça fait beaucoup de satellites, et c'est pas un petit problème. C'est pas un petit problème. Alors quelqu'un me dit, mais ils risquent pas de se toucher à la fin. Non, se toucher. Hein. 2πr, r étant égal à 42 000 km, hein, multiplié par 6,28, bon, ça fait pas mal de milliers de kilomètres. Il en faut déjà les satellites. Mais l'encombrement, il vient du fait que c'est aussi un encombrement en termes d'ondes. Hein, les ondes arrivent, il faudrait quand même ne pas mettre les satellites trop proches l'un de l'autre pour qu'il n'y ait pas trop d'interférences entre ce qui arrive, ce qu'on renvoie, etc. Et puis, deuxièmement, les satellites, ils ont une durée de vie finie. Pourquoi ? Eh bien, parce que on est obligé de temps en temps rectifier un peu leur position. Alors on a des petits moteurs à bord, mais ces moteurs, il faut les alimenter. En général, on les alimente avec un liquide qui est de l'hydrazine. Bon, mais quand il n'y a plus d'hydrazine, on ne sait plus réorienter. Bon, le satellite est considéré comme mort. Et puis quelquefois, il y a des pannes aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces satellites morts ? Vous me dites, oh ben ils sont morts. Hein ? Satellite géostationnaire, pourquoi l'orbite géostationnaire, pourquoi est-ce que ce ne serait pas aussi un cimetière ? Une certaine noblesse, un cimetière. Bon, ben oui, mais un cimetière, là, c'est des satellites qui encombrent. On préfère les mettre en repos ailleurs quand ils sont morts. Alors, on garde toujours un tout petit peu d'énergie pour qu'à la fin, quand vraiment on veut se séparer de leur bon service, on les remonte un peu, on les descend un petit peu de 200 km, vous voyez, pour les éjecter. Alors, ils deviennent des débris, mais des débris beaucoup moins importants parce qu'ils ne sont plus sur l'autoroute. Ils sont en dehors, soit un peu en dessous, c'est généralement un peu au-dessus, hein. Un peu au-dessus, 200 km au-dessus. Bien, alors combien ça fait de satellites ? Ça, ben, c'est en centaines qu'il faut que vous les comptiez. les satellites morts et tout à fait vivants. Donc vous voyez, c'est une gestion qui n'est pas simple et qui demande des accords internationaux. Et là, les fédérations internationales, l'Académie internationale d'astronautique que vous mentionniez tout à l'heure s'emploient. Et puis naturellement, les fédérations internationales sont alimentées par les travaux qui sont faits par les agences nationales et chez nous en particulier le CNES, et nous avons ici l'un des spécialistes de cette gestion des débris en la personne de M. Bonal. Bien, arrêtons-nous pour satellites géostationnaires, parlons un petit peu des orbites de transfert. Ah, alors vous me dites, bon, alors satellite à 36 000 km sur une orbite circulaire, la fusée elle monte à 36 000 km, ben non, bien sûr que non. Ne monte pas à 36 000 km la fusée qui porte le satellite. Elle va aller placer ce satellite sur une orbite intermédiaire qu'on appelle une orbite de transfert. Alors cette orbite de transfert, c'est une orbite qui est elliptique. Hein, la mécanique vous montre que ces orbites sont stables. Alors c'est une ellipse, de nouveau voilà la Terre. Alors on amène le satellite ici, on lui donne une vitesse horizontale et il va prendre une orbite elliptique. Et on s'arrange pour que le périgée près de la Terre, le bout de l'ellipse près de la Terre, soit facilement atteignable avec la fusée et que l'apogée soit à 36 000 km. Alors, vous voyez l'astuce, c'est que vous parcourez une orbite intermédiaire, orbite de transfert, et quand vous arrivez, quand vous êtes bien à l'aise, le satellite est bien à l'aise sur cette orbite, au bout de deux ou trois tours, quelquefois un seul, mais c'est rare. Quand vous arrivez au périgée, hop, une petite impulsion, on a pris le soin de mettre des petits moteurs sur le satellite, hop, une petite impulsion, et on circularise. Mais on a le temps de circulariser, hein, on n'est pas très très pressé, ça frotte plus là-haut. Donc on peut prendre un bon moment pour circulariser, et on passe de l'orbite de transfert à l'orbite géostationnaire, et les lanceurs classiques vous mettent vos satellites sur l'orbite de transfert. Alors tout dépend de la fusée. Avec Ariane 4 en général, on a des périgées à périgées à 200 km, hein, et avec Ariane 5, on a des périgées à 600 km. C'est plus agréable pour le propriétaire du satellite, vous voyez, d'avoir des orbites qui déjà ont leur périgée nettement plus haut. Bien, ensuite, toujours dans la description du dictionnaire des orbites spécifiques, SSO, orbite synchrone héliosynchrone, Sun Synchronous, orbite héliosynchrone. Alors, ces orbites héliosynchrones, c'est des orbites polaires auxquelles on donne des altitudes de l'ordre de 900 km, 1000 km, hein, et qui passent par les pôles. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ces satellites? Bon, on aime bien, quand on veut observer la Terre, j'ai parlé tout à l'heure de l'observation météorologique globale, je vais parler maintenant de l'observation beaucoup plus détaillée de la surface de la Terre. On aime bien quand même être assez bas, parce que plus on est haut, plus on voit les choses de loin. Donc baissons, mais ne frottons pas. Hein, c'est-à-dire ne baissons pas en dessous d'une altitude raisonnable, n'allons pas en dessous de 600 km. Hein. Alors en général, pour faire bonne mesure, on se met vers 800-900, voire 1000. Et puis, on est comme ça une orbite qui tourne par les pôles. Et la Terre tourne. Alors, vous voyez, la Terre tourne par rapport au satellite. Et le satellite a ce qu'on appelle une fauchée, fauche un andain de Terre qu'il voit. Et puis, la Terre tourne. Et au prochain passage, les périodes de ces satellites, c'est un peu inférieur à 2 heures, 1h40. Donc, en 1h40, la Terre a tourné, vous voyez une autre bande, et puis une autre bande, etc. Et l'astuce, c'est d'essayer de faire en sorte que le satellite repasse au-dessus d'un point précis de la Terre, toujours à la même heure. Je n'ai pas dit tous les jours, j'ai dit que quand il y repasse, c'est toujours à la même heure. C'est la synchronisation, géosynchronisation, orbite géosynchrone. Vous voyez ça? Alors là, on profite du fait que la Terre n'est pas une belle sphère, mais que c'est une pomme de terre. C'est-à-dire que la sphère terrestre n'est pas une sphère exacte, mais est légèrement déformée. Non, je retire pomme de terre, je vais dire poire. Hein? C'est Il n'y a pas de degré de noblesse entre pommes de terre et poires, mais l'image est meilleure. Il y a un renflement d'un hémisphère. Alors ça fait que, vous voyez, le champ de gravité change au cours et que vous pouvez obtenir un couplage de l'orbite avec cette carte de champ de gravité terrestre. Et ce couplage fait que vous pouvez vous arranger pour faire repasser le satellite toujours au-dessus du même point à la même heure. Donc, orbite géosynchrone très utilisée pour les satellites d'observation. Par exemple, le satellite français SPOT franchit l'équateur à 10h30 et 22h30 et SPOT il est à 800 km à peu près. Bon, je continue dans les orbites basses qui depuis un certain temps font vraiment recette. Alors, les orbites basses. Là, j'ai parlé d'orbites à 1000 km, mais et pour l'observation. Mais si vous voulez faire des télécommunications, vous pouvez vous dire, je vais mettre les satellites le plus bas possible, et puis j'en ferai des véritables constellations de satellites. J'en mettrai tant des petits satellites, ils seront petits, donc pas trop chers à l'unité, et j'en mettrai tant que, où que vous soyez, à quelle heure qu'il soit, vous aurez toujours en vue un satellite, et avec votre portable, allô, allô, bonjour, comment vas-tu, tu portes bien, ok, à bientôt, et c'est fini. Enfin, en général, c'est ça. Hein. Je ne suis pas sourd et je suis de temps en temps dans les salles d'attente et j'entends ce qui se dit, ou dans les trains. Bien, mais enfin, c'est un phénomène de civilisation, il faut y faire face. Donc, des essaims, ou plutôt des constellations de petits satellites qu'on met le plus bas possible. Donc, il faut avoir des lanceurs qui soient adaptés à mettre en orbite de tels engins. Alors là, attention, la mode a un peu changé. Si vous m'aviez entendu il y a 10 ans, je répétais comme un perroquet un peu sot ce que j'entendais partout, c'est-à-dire, oh, du télécom, les satellites géostationnaires, les énormes satellites, c'est fichu, on n'en fera plus. Non, 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 l'avenir, c'est les constellations de petits satellites, donc il ne faudra que de petits lanceurs. Et puis, il y a eu quand même quelques accidents techniques qui ont fait réfléchir et qui se sont dit, ah, c'est quand même bien agréable d'avoir des satellites géostationnaires. Vous pouvez avoir des satellites plus bas, oui, très bien. Et puis, ils ont une référence avec des gros satellites qui sont en orbite, qui font les plaques de ramassage, si vous voulez, les stations de ramassage, et qui ont des liaisons fixes avec de grosses installations terrestres qui ne sont pas très fréquentes, qui sont peut-être tous les 5000 km, mais qui vous font un système qui est nettement plus utile. Alors, vous voyez, le portable, le petit satellite bas qui, au lieu d'aller se débrouiller avec ses copains ou ses cousins, petit satellite bas, envoie vers un gros satellite qui traite, qui renvoie vers le petit satellite le plus convenable, et de l'autre portable, on reçoit du petit satellite. C'est maintenant le schéma qui semble se faire être le plus séduisant. Autre chose qu'il ne faudrait pas que vous gardiez, impression que vous gardiez, c'est que les télécommunications par satellite ont complètement balayé les télécommunications par câbles optiques transatlantiques ou transpacifiques. Non, les gros câbles optiques modernes avec des fibres qui ont très peu de pertes électromagnétiques restent avec un avenir très solide, et c'est un bon équilibre, une bonne répartition entre les câbles transocéaniques et les satellites qui constituent les programmes de télécommunication pour demain. Bien, arrêtons-nous sur ces missions et donnons quand même quelques idées sur comment ça marche. Propulsion. Ouais. Alors, propulsion. Les gens qui sont chargés de faire des cours de mécanique, en général, lorsqu'ils parlent des fusées, commencent à inculquer à leurs étudiants que quand on parle fusée, on ne parle pas énergie, on parle quantité de mouvement. Et que finalement, c'est en quantité de mouvement qu'il faut penser. Et c'est pourquoi je vous ai écrit ici l'égalité, quantité de mouvement à communiquer ou impulsion, on dit aussi, à la fusée, c'est grand M, la masse de la fusée, grand V, sa vitesse, qui est égal à l'impulsion de réaction des gaz que vous allez éjecter par vos moteurs de réaction, qui est petit mv, la masse des gaz que vous éjectez par w, la vitesse de ces gaz. Donc vous voyez, pour avoir une bonne fusée, il faut avoir une bonne quantité mw. Je divise par le temps, la masse des gaz éjectés, ça devient un débit, q, et le v qui est dans la deuxième partie caractéristique fusée, c'est gamma, ça devient la vitesse. Donc M gamma, vous voyez, c'est la force que vous appliquez à la fusée grâce à vos moteurs, et cette force, elle est le résultat du produit du débit de vos moteurs par la vitesse d'éjection des gaz. Et c'est en améliorant ces deux facteurs que vous faites des fusées toujours meilleures. Les deux, fusée qui débite beaucoup et qui débite vite. Alors ça, c'est vraiment de la très belle technologie, et c'est à cela que s'appliquent nos ingénieurs. Alors, qui débite vite quoi ? Eh bien, le résultat de la combustion, de ce qu'on appelle les ergols, c'est-à-dire un carburant et un comburant. En général, un oxydant et un réducteur. Alors, on a des couples oxydant-réducteur qui sont tout à fait classiques. Le couple le plus classique et qui, évidemment, a toutes les vertus, c'est le couple H2 hydrogène liquide, pour le stocker et l'emmener dans le réservoir, et hydrogène liquide et oxygène liquide. Alors, pourquoi est-ce qu'il a toutes les vertus ? Bonne caractéristique spécifique de la chaleur de réaction H2O2, facilité d'emport lorsque les deux gaz sont liquéfié, et puis du point de vue de la pollution, qui peut faire mieux ? Quel est le sous-produit ? C'est de l'eau. Alors, recracher de l'eau en Guyane, ça ne change pas grand-chose pour la population. Il pleut souvent. Bien, donc, moteur H2O2, ça a été vraiment le cheval de bataille de nos belles fusées Ariane. Et puis ensuite, on a aussi d'autres étages qui marchent avec d'autres réducteurs tels que la diméthylhydrazine et des oxydants qui sont par exemple le N2O4, le quadrioxyde d'azote. Alors N2O4 et la diméthylhydrazine, c'est commode, la diméthylhydrazine c'est liquide, donc ça se transporte facilement, et N2O4 à 20 degrés, c'est encore liquide. Alors si vous voulez que ce soit liquide un peu plus chaud, il fait chaud en Guyane, vous pressurisez un peu, mais pas la peine de pressuriser beaucoup pour que ça reste liquide. Donc c'est aussi un bon couple, ça. Voilà. Et puis ensuite, les militaires avaient l'habitude, et ont toujours gardé une certaine habitude, des propergols solides. Et pourquoi ? Ce n'est pas tellement parce que ça se stocke, ça se conserve facilement, c'est parce que ça stocke facilement, ça ne vieillit pas, et c'est commode pour un militaire de pouvoir avoir des hangars qui, pendant un certain temps, gardent. Bon, alors, les gros pousseurs d'Ariane 5, ils sont faits, ils ont comme carburant et comburant des solides. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ces solides, c'est un très fort oxydant solide qui est du perchlorate d'ammonium, hein, et le réducteur, c'est un métal, c'est de l'aluminium, de la poudre d'aluminium. Alors vous faites un bon mélange de ce perchlorate et d'aluminium, et quand vous allumez, ça vous fait une très bonne poussée. Alors, vous préparez des disques, ces disques vous les empilez, ils sont creux dans leur axe, si bien que le pousseur s'embrasse sur toute la hauteur, et ça vous fait un débit considérable avec une très bonne poussée. Donc voilà Ariane 5. Alors vous avez déjà eu l'occasion de voir cette engin, il est sur son pas de tir, il démarre à Kourou. Voilà, merci beaucoup. Les deux pousseurs à ergol solide sont les pousseurs que vous avez sur le côté, et au centre, vous avez les réservoirs à hydrogène et oxygène liquide, et en bas, le moteur qu'on appelle, on l'appelle Vulcain celui-là, le moteur Vulcain qui vous donne la poussée principale lorsque on s'est séparé des deux pousseurs. Bien. L'un des objectifs des fabricants de fusées, c'est d'essayer de réduire le plus possible la masse sèche par rapport à la masse d'ergol. Et actuellement, c'est pas mal ce qu'on fait. On arrive à avoir une masse sèche de structure, vous voyez, que de 15% du total. Et ça, ça permet vraiment d'emporter beaucoup d'ergol, c'est-à-dire d'avoir des fusées très performantes. La masse au lancement d'Ariane 5, c'est 740 tonnes. Sa hauteur, c'est 51 mètres. Et sa performance actuelle est de 6 tonnes. Mais l'idée, c'est de porter cette performance dans un délai raisonnable, quelques années, à une dizaine de tonnes, voire même un peu plus. Coopération internationale pour Ariane. Vous voyez, voilà quelques indications. La coiffe d'Ariane, depuis le début de notre programme Ariane, elle est suisse. Les Suisses sont très contents de faire un très beau chapeau à la fusée européenne. Elle est très bonne, mais ce n'est pas idiot. Hein. Vous savez, c'est de la belle technologie, la coiffe, parce qu'il faut que ça marche. C'est-à-dire qu'au bon moment, elle s'ouvre, elle se sépare sans venir cogner bêtement ce qu'on lui a confié, c'est-à-dire les bons satellites qui sont à l'intérieur. Donc, belle technologie suisse, c'est presque de l'horlogerie. Ensuite, vous voyez quelques contributions de nos collègues. Il n'est pas inutile de vous donner une idée de la contribution des différents États. La France avec 46%, nous avons toujours eu cette bonne réputation d'artilleur. Les Allemands sont montés à 22%, très bel effort allemand. La Belgique est très engagée dans l'espace, vous voyez, la Belgique qui en population n'est pas considérable à 6%. Et puis ensuite, les autres contributeurs. Alors, Ariane, c'est notre affaire. Nous en sommes le dernier lancement. Quel numéro avait-il ? 132. Nous en sommes à 132 lancements de la famille Ariane. Et combien d'échecs avons-nous eu à déplorer, notamment au début des lancements ? 8. 8, oui, c'est bien ce que j'avais en tête. Ce n'est pas le chiffre que je retiens avec le plus grand plaisir, mais bon, vous savez, 8 sur 130, hein, ouh, personne n'a fait si bien. Ah ben non, non, non. Alors, concurrence. Ah ben oui, la concurrence, eh ben, elle existe et elle est vive. Alors, voilà Ariane de l'Europe. Le Ariane 4 qu'on va encore conserver un petit moment, et puis ensuite les Américains avec le Shuttle. Le Shuttle, alors là, pour reprendre une expression imagée d'un de mes collègues, on peut toujours hésiter en matière de transport spatial entre le briquet et l'allumette. Hein ? Le briquet, c'est la navette spatiale, l'allumette, c'est les lanceurs consommables du type Ariane, Atlas, etc. Alors, le briquet, dans les années 70, les Américains ont fait une intox terrible pour leur shuttle en disant, je me souviens d'un dîner à Paris où le patron de la NASA, j'étais actuellement à ce moment-là le patron du CNES, le patron de la NASA était venu me voir, en garçon bien élevé, je l'avais invité à un dîner qui n'était pas mauvais, mais il m'a complètement gâché mon dessert, parce qu'au dessert, il s'est mis, vous connaissez nos amis américains, quand ils commencent à vous parler, à vous nommer avec votre prénom, à vous taper un peu dans le dos, c'est que les difficultés vont commencer. Alors, dear Hubert, oui, bon. Qu'est-ce que vous faites avec Ariane ? Bon, je comprends bien, vous allez m'expliquer, mais enfin, quand même. C'est pas l'avenir. Tandis que si vous veniez avec nous, pas beaucoup d'argent, on sait, mais enfin, l'argent que vous nous amèneriez, vous le placeriez dans la véritable aventure de l'avenir, le shuttle, la bonne à tout faire de l'espace, le laboratoire de l'espace, l'autobus de l'espace, le lanceur de petits de gros satellites, etc. Bon, oui, très bien, c'est une machine superbe, le shuttle, superbe, mais horriblement coûteuse, parce que après chaque vol, vous dites c'est réutilisable, je repars demain. Je repars demain, mais pas du tout. Il faut tout vérifier. Il y a une remise en condition entre deux vols qui n'est pas immédiate et qui est extrêmement coûteuse. Donc, on a renoncé au tout shuttle. Les Américains ont renoncé au tout shuttle. Et les voilà maintenant qui nous font concurrence avec Dedecta, Atlas Centaur, Titan. Et puis, n'oublions pas que l'URSS a existé et que une part de l'héritage est revenue aux Russes, mais aussi aux Ukrainiens, et qu'il y a des fusées russes qui existent et qui sont bonnes, vous le savez bien, et que les Russes ont tendance maintenant à s'entendre soit avec nous, Européens, soit avec les Américains, pour utiliser leur technologie avec une ouverture commerciale et économique vers l'Occident. D'où des lanceurs assez bon marché. D'ailleurs, nous, Français, nous avons constitué une société menée par un groupe français, ça s'appelle StarSem, qui lance depuis Baïkonour et peut-être dans un certain temps depuis Kourou, mais ça, on n'a pas encore décidé, qui lance des lanceurs qui sont fondés essentiellement sur la technologie soviétique et qui marchent bien. Donc, nous avons à faire face à cette diversité compétition. Vous voyez, c'est pas simple et je peux vous garantir que nos techniciens, ils travaillent dur. Alors, comment est-ce qu'on peut continuer à bien se placer comme on le fait actuellement dans les lanceurs? Il faut que ça soit souple, que ça soit fiable et que ça soit moins cher. Souple, c'est-à-dire qu'on puisse faire différentes choses. Vous voyez, c'est pas le briquet, mais avec une allumette, c'est l'allumette de grand luxe. On va pouvoir faire plusieurs choses, c'est ce qu'on appelle la versatilité d'un lanceur. On va faire des Ariane 5 qui auront un moteur de réallumage et qui pourront vous mettre un premier satellite sur une certaine orbite, un second satellite sur une autre orbite, voire un troisième qui va s'échapper dans l'univers, c'est la versatilité. Et donc à ce moment-là, avec l'avantage du shuttle, bien. Deuxièmement, il faut que ça soit fiable. Bon, je crois qu'on a démontré que vraiment on avait fait beaucoup d'efforts et qu'on avait eu des succès mérités. Mais vous savez, on n'est jamais, jamais à l'abri d'une difficulté. Il faut continuer à être extrêmement vigilant. Et puis, moins cher. Moins cher, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 4 ou 5 ans, j'entendais des personnalités, même peut-être des ministres, qui disaient des âneries. Non, mais leur discours avait été mal préparé. Bon, des âneries, c'était de dire on va diviser par 3, j'ai même entendu une fois par 5, le prix des fusées. Non, 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 on ne divise pas par 5. Ou bien alors c'est qu'on volait le client, mais on n'a jamais volé le client. Hein, on lui a fait payer un tout petit peu plus du prix de revient. Bon, il faut diminuer ce prix de revient. Alors, diminuer ce prix de revient, c'est en améliorant la technique, en améliorant l'organisation, c'est très important. C'est d'autant plus important que nous avons des aventures internationales, plurinationales, et que là, il faut être extrêmement attentif parce que ça risque toujours de coûter un peu plus cher. Donc, il faut essayer de diminuer les prix. Ce que nos amis ont en tête, c'est diminuer de 30%. Si on arrivait à diminuer de 30%, alors là, tout le monde est content. Les acheteurs de satellites sont contents. Et les marchands de fusées sont contents parce qu'ils font du bénéfice. Un petit peu de bénéfice. Bien. Ah ben, un petit peu de bénéfice, combien ça coûte une fusée? Alors là aussi, vous avez des idées. Ah. Est-ce que ça coûte plus cher qu'un bon avion ou moins cher qu'un bon avion, une fusée? Ah non, plus cher. Ouais. Eh bien oui, pour mettre un bon gros satellite en orbite, il vous faut quand même un demi-milliard de francs. Combien? 45 milliards de quoi? Ah non. Ah non, là, on vous engage, là. Non, non, vous ajoutez un zéro. Attendez, je reprends. Moi, je vous dis, avec 500 millions de francs, vous pouvez mettre en orbite un bon satellite. Hein ? Oui. Si vous voulez acheter un Airbus 310, il me semble que vous devrez aligner 350 millions de francs. Finalement, si vous voulez compter en dollars ou en euros, eh bien, comptez 80 millions pour un bon satellite. Alors, un bon satellite, quand je dis bon, c'est par rapport à sa taille. Et vous pouvez vous demander quelle va être l'évolution de la taille des satellites dans l'avenir. Eh bien, voilà un petit schéma de prévision. Alors, vous voyez que il y a 10 ans, on en était essentiellement à des satellites dont la masse était inférieure à 2,4 tonnes. Et les satellites de 2,4 tonnes, eh bien, ils se font plus rares et on voit apparaître un nombre important de satellites entre 3 et 4 tonnes et qu'il faut aussi pouvoir satisfaire une clientèle qui peut demander des lancements de satellites de 5 à 6 tonnes. Donc, évolution d'Ariane, on prévoit une Ariane 5 qui devrait assez vite faire dans les 7-8 tonnes, puis ensuite une dizaine de tonnes, et peut-être, si tout va bien, on pourra monter encore un peu plus loin, et on insiste aussi sur cette versatilité. Et en général, avec Ariane 5, on lance deux gros satellites. On est bien équipé pour cela, et sans versatilité, on est obligé de les lancer sur le même type d'orbite. Avec versatilité, on pourra aller plus loin. Bien, et puis aussi, j'ai parlé de petits satellites, il faut aussi parler de petits lanceurs, petits et moyens lanceurs, on ne peut pas être absent de ce marché. Aussi, les Européens, en particulier avec Vega, sont en train de se placer aussi sur ce marché. La dernière question que vous pourriez poser, c'est de dire, mais vous avez été bien modeste sur les vision d'avenir en termes de technologie tout à fait nouvelle. On ne va pas inventer quelque chose d'autre que deux liquides que vous mettez ensemble qui se vaporisent et qui brûlent. Ça va être comme ça, dites donc, les Chinois avec leur feu d'artifice, ils faisaient déjà ça il y a quelques siècles. Eh bien, pour l'instant, il n'y a pas d'idée de génie, c'est pas la révolution. Alors, on pense à des méthodes électriques, vous voyez. Au lieu de fabriquer un gaz chaud qui s'éjecte, vous pourriez fabriquer un gaz ionisé et éjecter ce gaz ionisé par l'effet d'un champ électrique. Astucieux, hein ? Ça n'est plus une force chimique, c'est une force électrique. Vous faites un plasma électrique et vous l'éjectez avec un champ. Oui, ça marche, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à imaginer les moteurs qui aient la puissance de ceux qu'on utilise là. Donc, pour l'instant, vraiment, les idées, c'est d'améliorer le type de construction en restant sur le même principe de propulsion et de faire en sorte que les matériaux utilisés, par exemple pour la masse sèche, sont des matériaux de plus en plus légers, de plus en plus résistants. Et puis aussi des matériaux que l'on puisse traiter de façon plus rationnelle en ce qui concerne les débris, c'est-à-dire qui brûlent mieux quand on veut les faire rentrer ou auxquels on peut faire subir des sorts divers pour qu'ils ne soient pas gênants des débris qui pourraient venir heurter des satellites. Je sais bien que l'atmosphère est pour l'instant encore moins encombrée de débris que la mer de Barents, par exemple. On n'a pas eu de gros accidents. On a eu quelques accidents dus à des chocs de débris ou de météorites, mais bon, simplement, la prudence s'exerce là aussi. Donc, pas de révolution technique, une grande attention et un grand suivi technique. Et quand je dis un grand suivi technique, j'aurais bien tort de ne pas ajouter et un grand suivi politique. Attention, la maîtrise de l'espace, c'est un enjeu politique. Nous, Français, au sein de l'Europe, nous sommes bien placés. grâce à toutes sortes de grandes compétences, nous avons gagné une place qui est souvent enviée, surtout faisant en sorte de rester dans, vraiment non seulement dans la cour des grands, mais dans le peloton qui gagne les médailles.
Marc Serrero, je suis formateur de futurs professeurs. Et donc, je vais me permettre de vous poser la question suivante. Il y a 40 ans, le jeune cristallographe que j'étais, et dont vous fûtes le maître, avec André Guigné, rêvait scientisme. Or, l'indice de pauvreté dans ces 50 ans n'a cessé d'augmenter pour 3 milliards d'habitants, c'est-à-dire effectivement la moitié de la planète. Et vous nous dites que vous envoyez 1 kg pour 100 millions de francs dans l'espace. Oui, c'est le calcul que j'ai fait de tête. Vous savez aussi bien le faire que moi.
Attendez, non.
5 tonnes.
5 tonnes pour 500 0. Millions.
C'est ça. On est bien d'accord.
Oui, hein? 5 tonnes pour 500 millions.
Donc, une tonne.
Une tonne pour 100 millions.
Pour c'est une pas tonne bien. Pour 100 millions. Oui. Hein, c'est bien. Oui, pardon. Donc, une tonne pour 100 millions. Donc, cette tonne-là, en alimentation, j'apprends à mes élèves
oui.
que 1 franc par habitant et par jour suffisent pour notre planète. Alors, mon rêve scientiste, comment est-ce que je le transmets à mes futurs enseignants?
Mais, bon, votre remarque est tout à fait pertinente et vous, au fond, vous commentez ce que quelquefois je nomme l'effet Saint-Mathieu. Les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Et c'est contre cela qu'il faut lutter. Mais l'expérience que j'ai pu acquérir au cours d'un certain temps de pratique, c'est que ça n'est malheureusement pas en ne faisant pas un certain nombre de choses qu'on pourra faire les autres. Le principe des vases communicants s'applique très mal en politique. Ce n'est pas parce que vous allez vous priver de tel ou tel système de télécommunication pour des populations riches, j'en suis d'accord, que vous pourrez mieux nourrir des populations pauvres. Il faut d'abord, un premier point qui peut nous mettre un peu plus à l'aise, que les technologies modernes profitent aussi aux populations pauvres. C'est-à-dire que nous insistons, et il y a deux jours, j'avais organisé pour une organisation qui s'appelle Eurisi, que je préside, un colloque à Varèse qui s'appelait Application humanitaire des systèmes spatiaux. Alors, application humanitaire des systèmes spatiaux, c'est l'aide aux populations déplacées pour fait de guerre ou déplacées pour fait de famine, notamment dans les pays africains, l'aide au transport dans les pays un peu difficiles, l'aide à l'observation de la végétation et à la correction nécessaire quelquefois du traitement des récoltes. On peut aider pas mal et on le fait. On le fait dans des conditions qui sont quelquefois acrobatiques parce que quand vous allez par exemple au Soudan et que vous dites que vous venez aider, les gens vous disent nous aider, c'est d'abord faire en sorte que ce malheureux gamin puisse manger aujourd'hui, il n'a pas mangé depuis 3 jours. Oui, c'est vrai, il faudrait amener à ce gamin de la nourriture, seulement encore faut-il que les gens qui empêchent la nourriture d'arriver à ce gamin se calment un peu et conduisent des camions de ravitaillement plus que des camions de grenades et de mines. Donc, il y a là une vaste question. Vous faites bien de la poser, mais attention, ne nous privons pas de progrès ici parce qu'on constate que là, ça ne marche pas. Essayons de faire en sorte qu'au moins le progrès ici traîne un peu mieux le progrès là. Ce qui est le problème des temps modernes, j'en suis bien d'accord.
Madame.
Monsieur, on a réussi à mettre au point rapidement la combustion hydrogène-oxygène pour les fusées. Pardon. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à maîtriser rapidement ce même système de combustion dans les automobiles, ce qui nous donnerait un carburant non polluant?
Oui, madame. Seulement, voilà, c'est pas si simple. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Seulement, attention à la non-pollution, parce que l'oxygène, vous l'obtenez facilement en distillant l'air. Hein, mais l'hydrogène, il n'y a pas beaucoup d'hydrogène naturel. Il faut le fabriquer, cet hydrogène. Et vous, comment vous le fabriquez ? Par électrolyse. Et comment vous faites l'électrolyse avec de l'énergie ? Et cette énergie, si vous ne voulez pas entendre parler de réacteurs nucléaires, vous le faites avec des bonnes centrales au charbon, un peu hydraulique certes, mais essentiellement des centrales qui vont brûler des hydrocarbures. Donc, vous voyez, dans le cycle écologique, attention, l'hydrogène, du point de vue écologique, c'est pas gratuit. Bon. Ceci dit, ensuite, hydrogène et oxygène, il faut, pour que ça soit, pour que vous puissiez en faire des gaz utiles au transport, il faut effectivement les réfrigérer, les tenir au froid. Donc ça fait des automobiles pas très très simples. Il vaut mieux, on pense plutôt pour les automobiles non polluantes aux piles à combustible, qui sont d'une alimentation souvent plus facile que la combustion directe hydrogène-oxygène. Vous voyez, c'est un type de combustion du même type, mais plus facile à maîtriser. On y arrivera. Je crois que le premier pas qu'on a franchi actuellement avec des automobiles utilitaires qui ont une toute petite centaine de kilomètres de possibilité d'indépendance, c'est déjà pas si mal. Mais ça ne va pas vite. Je me souviens très bien qu'il y a 30 ans, on me présentait déjà, pas des engins à pile à combustible, mais des engins avec des accumulateurs au plomb. Alors là, vraiment, ça faisait beaucoup de plomb à trimballer. Hein. Mais on y arrivera, c'est sûr. C'est sûr que l'automobile, avec le moteur à explosion, dans 50 ans, ça aura changé. Mais je dis dans 50 ans, hein, parce que depuis 100 ans, ça n'a pas vraiment changé. Si, les moteurs sont bien plus performants, ils sont beaucoup moins polluants, mais c'est toujours des hydrocarbures qu'on brûle.
Question de monsieur.
Oui, bonjour monsieur le ministre. J'ai une question précise. Aujourd'hui, il y a une sorte de désespérance quant à la mise au point de production d'énergie par la voie thermonucléaire. Et n'y aurait-il pas intérêt pour les agences spatiales de s'y intéresser pour la propulsion, dans la mesure où les problèmes de confinement sont évidemment d'un tout autre ordre? Et là, je pense qu'il y a peut-être des travaux théoriques et pratiques à mener, mais ça nécessite évidemment des investissements qui ne sont peut-être pas aujourd'hui budgétés.
Alors, propulsion thermonucléaire, oui, bien sûr, c'est un mode d'énergie auquel on peut penser. Et les soviétiques y avaient pensé. Alors, ils y avaient pensé, ils avaient fait quelques engins qui étaient munis, pas des fusées, des satellites, et qui étaient munis d'un système où il y avait une bonne réserve d'uranium, et c'était simplement une source de chaleur. Une source de chaleur, et ça faisait un thermocouple, et le thermocouple faisait de l'énergie électrique. Seulement, il y en a un de ces satellites qui est bêtement tombé au Canada. Les Canadiens ont fait une histoire du diable, bon, vous avez sans doute raison, mais ça a mis fin à cette filière. Alors, la grosse difficulté pour des engins qui pourraient partir vers l'espace avec de l'énergie thermonucléaire, c'est premièrement risque d'échec du lancement avec dispersion du dispositif, ça serait quand même très désagréable. Et puis, deuxièmement, le débris, on n'aime pas beaucoup se dire qu'on met dans l'espace des débris qui ne sont pas particulièrement recommandables. Alors, on fera des progrès. Pour l'instant, ce n'est pas très à la mode.
Juste un point de détail, j'entendais bien fusion thermonucléaire. Non pas filière nucléothermique, parce que je crois que la filière nucléothermique, elle est abandonnée partout.
Oui, vous entendez fusion et pas fission.
Exactement, fusion
thermonucléaire. Oui, seulement alors, oui, très bien. Alors la fusion, mais disons un mot de la fusion pas seulement pour la propagation des fusées, mais de la fusion comme source d'énergie. Eh bien oui, mais alors la fusion, il faut bien voir ce qui s'est passé pour la fusion. Le principe de la fusion thermonucléaire pour produire de l'énergie, on y pense depuis qu'on sait qu'on connaît le cycle de Bethe, c'est-à-dire qu'on sait comment marche le soleil. C'est quand même trop bête de ne pas reproduire chez nous des petits soleils artificiels qui nous donneraient vraiment l'accès à des sources, à des quantités d'énergie formidables. Seulement, voilà, ça s'est avéré plus compliqué techniquement qu'on ne le pensait. Et puis, pourquoi on y a mis de l'argent ? Mais pas énormément d'argent. Et pourquoi pas énormément d'argent ? Parce que pas de locomotive pour tirer ce train-là. Qui voulez-vous qui tire ce train-là ? EDF ou les grandes compagnies d'électricité dans le monde ? Mais pas du tout. Pour EDF, le problème n'est pas là. Le problème est d'amortir encore pendant 30 ou 40 ans les centrales qu'ils ont actuellement, ou d'en construire quelques-unes sur le même type pour amortir leur investissement de recherche. Mais se dire qu'ils vont complètement changer de principe, si c'était extrêmement simple techniquement, peut-être, mais comme ce n'est pas extrêmement simple techniquement, pas de locomotive, donc le train avance sur son air à toute petite vitesse, et vous le voyez, après un bon coup de bélier donné par l'Europe, ben, il y a une certaine désaffection. Parce que, encore une fois, c'est pas facile, techniquement, c'est pas facile. Ce qu'on a fait en Europe, par exemple, c'est bon. Hein, le réacteur en Angleterre, le réacteur européen en Angleterre, c'est bon, ils ont très bien travaillé, mais on est encore loin de l'usine. Hein.
Oui. Oui, ouais. Parce que le problème, c'est celui essentiellement du confinement. Le confinement dans un système de propulsion. Oui, excusez-moi.
Je pense que là j'y suis. D'accord. Donc c'est le problème du confinement qui est un véritable casse-tête chinois. Dans le domaine de la propulsion, le problème du confinement se poserait en des termes tout à fait différents.
Oui.
Donc il y a certainement des investissements à budgéter dans cette filière.
Oui. Mais il faut qu'on trouve que c'est vraiment digne de balayer ce qu'on sait faire actuellement pratiquement sans
risque. Bien sûr. Bien sûr. Merci, monsieur le ministre.
Je crois que ce sera les derniers mots de cette conférence.
Non, c'est dommage.